Merci d'écouter RFI, il est 10h30 à Paris, 8h30 temps universel. La dernière édition d'Afrique Matin est présentée par Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Chantal, bonjour à tous. À la une ce matin, le Mali. Ceux qui sont restés n'ont même pas pu enterrer correctement les morts. Récit d'une fin de journée tragique lundi pour le village de Djigibombo dans le centre du pays, attaqué par un groupe djihadiste. Une vingtaine de ses habitants au moins ont été tués. Dans ce journal également, on reviendra sur l'épisode de pollution d'une rivière dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et l'intoxication de près de 200 personnes. Le Tchad, après la révélation d'une enquête de la justice française visant le président tchadien sur des présumés détournements de fonds. Et puis reportage à Djouba, au Soudan du Sud, un pays où les mécontents et les manifestations se multiplient dans un contexte économique compliqué par la guerre au Soudan voisin. C'est un bilan qui est encore ce matin provisoire. Au Mali, au moins 21 habitants du village de Djigibombo ont été tués au début de la semaine. Djigibombo, c'est dans le centre du pays, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bandiagara, où sont stationnées l'armée malienne et ses supplétifs russes. Lundi, en fin d'après-midi donc, des hommes armés, visiblement des djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, ont attaqué la localité, ce qui est loin d'être une première dans la zone. Précision et explication avec David Bach.
Lorsque les djihadistes ont attaqué Djigibombo vers 17h, une cérémonie de mariage était en cours. Selon les habitants, élus locaux et représentants communautaires joints par RFI, 21 corps ont été retrouvés, criblés de balles ou égorgés. Certains villageois sont toujours portés disparus. Des habitations, des greniers et le centre de santé du village ont été incendiés, du bétail emporté. Les sources jointes par RFI attribuent l'attaque à la Katiba Massina du Jnim, très active dans la zone. Ce même lundi, une autre attaque a également eu lieu dans le village de Sokorokanda, à quelques kilomètres. Deux personnes y ont été tuées. Ces derniers mois, les passagers de plusieurs bus circulant sur la RN15 toute proche ont été enlevés. En mai dernier, 19 habitants de Dialassagou, une autre commune du même secteur, avaient été tués. Il y a 2 ans, une attaque du Jnim y avait fait plus de 130 morts. L'association locale Gina Dogon invite les autorités à reconsidérer le plan de gestion sécuritaire du centre qui a montré ses limites et déplore que la population de la région de Bandiagara ait le sentiment d'être abandonnée à son triste sort.
David Baché, et nous avons posé la question à l'armée malienne d'éventuelles actions en cours, armée qui ne nous a pas encore répondu. En Mauritanie, aucun recours n'a été déposé devant le Conseil constitutionnel après l'annonce de la réélection du président Mohamed Ould Razouani suite au scrutin de samedi dernier. Arrivé deuxième du vote, l'opposant Biram Dahabeid n'a finalement pas saisi le Conseil, lui qui avait dénoncé des fraudes. Conseil constitutionnel mauritanien qui a maintenant une semaine pour proclamer les résultats définitifs. En Côte d'Ivoire, on attend là aussi des résultats, mais ceux des prélèvements effectués par le Centre ivoirien anti-pollution. Mais déjà, le ministère de l'Environnement affirme dans un communiqué que la source de pollution qui a occasionné 185 cas d'intoxication légère près d'Iti dans l'ouest ivoirien est maîtrisée par la société minière, c'est ce que dit le ministère. Une série de mesures en tout cas ont été prises contre la société qui exploite une mine d'or en amont du village et pour les habitants de la localité à Abidjan Bintadiagne.
Le village d'Ouyatouo est situé à 400 mètres de la mine d'or d'Iti. Le canal d'évacuation des eaux de pluie dans lequel des déchets miniers se sont écoulés longe cette localité. Dès qu'il a été informé de cet incident, le chef de canton, Célestin Bala, a rapidement sensibilisé les habitants.
J'ai appelé le griot pour alerter tout le village de ne pas boire de l'eau de marigot et de l'eau de pluie. Le lendemain, nous avons constaté les diarrhées, les vomissements. J'ai appelé la mine. Ils ont mis un plateau technique en marche.
Par mesure de prévention, la pêche a été suspendue, l'eau courante a été coupée. Les habitants se sont rabattus sur la pompe hydraulique du village. Mardi, 2 citernes ont été envoyées pour approvisionner la localité. Mais les habitants restent partagés à l'image de Christophe Couimincent, le président des jeunes.
On s'inquiète beaucoup, ceux qui sont malades, ceux qui font la diarrhée.
Il faut dire qu'au moins c'est l'arrivée des 2 citernes au
village. Ça nous soulage un peu, mais pas la totalité, parce que le village est tellement grand. Nous avons 7 quartiers ici. On peut nous aider à faire 7 fourrages au village. Pourquoi pas un mini château?
La société Endeavor estime que l'incident a été circonscrit, selon ses mots, des mesures de nettoyage ayant été menées dans le périmètre du canal de dérivation, lit-on dans un communiqué. Mais les riverains de cette mine d'or attendent la publication des résultats des prélèvements effectués par le Centre ivoirien anti-pollution pour être totalement soulagés. Bintadian Abidjan, RFI.
Dans l'actualité ce matin également, les déclarations du ministre des Mines du Sénégal à l'occasion hier d'un sommet minier à Paris. Biram Souley Diop confirme que Dakar entend bien renégocier tous les contrats en vigueur à l'heure actuelle pour l'exploitation du sous-sol sénégalais. Et le ministre pense aussi que les minerais du Sénégal devraient pouvoir être transformés sur place.
Goma, 98 FM.
Arrêté, jugé et condamné à la peine de mort, le tout dans la même journée. C'était hier dans l'est de la République démocratique du Congo. 25 militaires ont écopé de la peine capitale, notamment pour fuite devant l'ennemi. Alors que des combats ont toujours lieu en ce moment entre l'armée congolaise et ses alliés et les rebelles du M23, soutenus eux par le Rwanda. Et alors que également que les rebelles sont en ce moment plutôt dans une phase offensive. Notez qu'au mois de mai dernier, 8 autres militaires avaient eux aussi été condamnés à la même peine. La peine de mort pour laquelle le gouvernement congolais a dit cette année sa volonté de l'appliquer à nouveau. Au Tchad, la présidence reste sur sa position après la révélation qu'une enquête préliminaire de la justice française visait le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby, soupçonné de présumer détournement de fonds suite à l'achat de près d'1 million d'euros de vêtements ces dernières années. Officiellement donc, N'Djamena renvoie à l'autobiographie du président. Mais en aparté, certains proches sont un peu plus bavards. Esdras Ndikoumana.
La présidence tchadienne s'est contentée encore une fois de reprendre les mêmes éléments de langage, je cite. Nous espérons que cette enquête établira la vérité et dissipera l'intention de nuire à la réputation du président de la République du Tchad, a répété un de ses conseillers en communication, Armand Djengoltar, avant de nous renvoyer encore une fois à l'autobiographie de Mahamat Idriss Déby, dans laquelle il a qualifié cette affaire de symbole de la manipulation politique. Même si la présidence tchadienne se veut plutôt discrète à ce stade, la pilule passe mal dans son entourage immédiat où l'on pointe une cabale contre Mahamat Idriss Déby. C'est pour nous faire payer son voyage en Russie et la visite du chef de la diplomatie russe au Tchad dernièrement, estime l'une de nos sources. Ces politiques, on cherche à l'humilier, cela aura des conséquences sur nos relations, a renchéri un autre responsable, en se demandant si la justice française n'avait rien de mieux à faire que de s'occuper des habits de notre chef de l'État. Du côté de la société civile tchadienne, le président de Tournant la page Tchad demande lui que cette enquête de la justice française aille jusqu'au bout. Il faut qu'elle nous dise clairement si c'est Mahamat Déby qui est responsable ou si c'est son entourage, a précisé Jacques Ngarassal.
Esdras Ndikoumana, N'Djamena qui est nettoyé à 95% et plusieurs milliers d'engins explosifs ont été récupérés, affirment les autorités après l'explosion d'un dépôt de munitions dans la capitale tchadienne il y a 2 semaines. Travail de déminage périlleux et délicat. Reportage avec une équipe de démineurs à réécouter sur RFI.fr. Le Tchad qui accueille par ailleurs sur son sol des centaines de milliers de réfugiés soudanais qui fuient la guerre dans leur pays depuis bientôt 1 an et demi. Autre conséquence, le conflit pèse sur l'économie du Soudan du Sud, basée en très grande partie sur les exportations de pétrole via le Soudan. Aujourd'hui, cela fait 8 mois que les fonctionnaires n'ont pas été payés, dans un pays où l'inflation est l'une des plus rapides au monde en ce moment. Une situation qui entraîne de la grogne, des grèves et des manifestations, alors que les autorités, elles, durcissent leur arsenal répressif. Reportage à Djouba de Florence Mieto.
C'est la dernière manifestation en date depuis qu'un vent de protestation semble souffler sur le Soudan du Sud. Boldeng Bol dirige l'organisation de la société civile Intrepid South Sudan, basée à Bor, la capitale de l'état du Jonglei, à l'est du pays, où 2 manifestations ont eu lieu les 17 et 24 juin dernier pour protester contre l'augmentation du coût de la vie.
Les prix sont très élevés sur le marché. Il y a des facteurs aggravants comme l'insécurité qui empêchent les gens de sortir de la ville pour cultiver et améliorer leur quotidien. Ou encore les taxes élevées sur les petits commerces, sans parler du retard des salaires. Tout cela a contribué à rendre la vie très chère avec une inflation extrêmement élevée.
Pacifiques, les manifestations ne sont pourtant pas du goût des autorités à bord. Plusieurs manifestants ont été questionnés par les services de sécurité et Abraham Aleo Agnette, un journaliste de la télévision publique, a été arrêté à son domicile le soir du 26 juin à bord.
Tout comme les traités internationaux, notre constitution garantit pourtant ce droit, cette liberté de se rassembler de façon pacifique et d'exprimer notre opinion en tant que citoyen.
Recherché, Boldeng Bol se cache actuellement pour échapper aux services de sécurité. Ce, alors que les parlementaires sud-soudanais ont adopté une loi controversée ce mercredi 3 juillet, autorisant des arrestations sans mandat par les services de sécurité. Florence Mieto, Djouba, RFI.
Et à Djouba, comme ici, à Paris, il est maintenant 10h40, l'heure de retrouver Chantal Leroux.
C'était le journal.